Débutons avec Martin McGuire qui nous attend. Salut Martin.
Jérémy, bonjour, bonne émission, bonne première.
Oui, merci beaucoup, très apprécié. Écoute, c'est pas le travail qui manque aujourd'hui, c'est pas le boulot,
c'est pas les sujets. On a un beau bouquet de sujets, mon cher, je vais te laisser commencer, je te suis.
Ben écoute, on n'a pas le choix que de commencer avec Pierre-Luc Dubois parce que ça fait deux semaines, on dirait que c'est le sujet le plus chaud dans la Ligue nationale. Si vous faites le tour des médias sociaux, c'est un sujet qui revient très souvent. Bon, on n'a pas besoin de raconter toute l'histoire. Là, vous avez vu comment ça s'est conclu il y a deux jours. 3 minutes de jeu et des poussières pour lui. Tortorella le cloua au banc. On a vu que Pierre-Luc non plus sur la patinoire, disons, t'es pas très, très convaincant non plus. Donc, il fallait qu'il se passe quelque chose.
Mais honnêtement, Jérémy, je pense que quand on voit la transaction s'être concrétisée ce matin, là, on la rappelle. Ouais. Là, alors, Dubois s'en va du côté de Winnipeg. En retour, les Blue Jackets reçoivent Patrick Laine et le joueur de centre, d'ailleurs, originaire de l'Ohio, Roslevic, donc qui accompagne Laine pour se diriger vers sa nouvelle équipe, les Blue Jackets. C'est deux malheureux qu'on a échangés et je pense qu'une transaction complétée comme ça, là, un samedi matin, j'ai l'impression que vendredi, là, quand John Tortorella a fait sécher le banc à Pierre-Luc Dubois, il y avait peut-être aussi quelques recommandations qui venaient du directeur général en disant, écoute, joue-les pas trop, là, parce que on est vraiment sur le bord de conclure une transaction. On peut pas le retirer du banc, là. On a quand même besoin d'un joueur en uniforme. Ouais. Mais je pense qu'on peut comprendre qu'il y a derrière tout ça, malgré l'ego démesuré de John Tortorella parfois, il y avait peut-être une consigne où on voulait pas l'exposer à une blessure pour faire avorter cet échange-là. C'est une bonne transaction pour les deux équipes.
Pierre-Luc sur la patinoire avait pas l'air d'un gars qui voulait se placer dans une situation trop pour se faire blesser.
Il avait l'air à attendre. Il avait l'air à attendre quelque chose. C'est une bonne transaction pour les deux côtés, Jérémy. Je m'explique rapidement. Et pour que les gens saisissent bien, je vais faire un parallèle avec la transaction Pacioretty. Ce ne sont pas des joueurs pareils qui ont été échangés, là, mais la situation, comprenez-moi bien. Pacioretty, on le sait, vit un divorce avec le Canadien de Montréal. On avait décidé qu'on ne le signerait pas, alors il fallait l'échanger. Il y avait un différend assez profond entre le capitaine et la haute direction de l'équipe. Alors, on procède à une transaction. Cette transaction-là a donné au Canadien un formidable jeune joueur qui s'appelle Nick Suzuki et qui sera probablement l'un des leaders ou sinon le leader de l'attaque du Canadien dans quelques années. Et ils reçoivent également Tomáš Tatar, qui aujourd'hui est un des ailiers les plus prolifiques du Canadien de Montréal. En retour, Vegas, on le sait, a mis la main sur un vrai compteur de 30 buts, parce que Pacioretty, n'en déplaise à certaines personnes, c'est un vrai marqueur de 30 buts. Je reviens à la transaction de Pierre-Luc Dubois. Les Jets de Winnipeg ont besoin de joueurs qui vont s'attacher et s'engager envers cette organisation-là. Laine ne voulait plus s'engager envers les Jets.
Ça lui faisait un bon bout de temps, là.
Écoute, ça fait un an qu'il dit, là, je suis là, profitez-en, je suis encore là, mais bon. Alors, tandis que Pierre-Luc Dubois, lui, a passé une bonne partie de la saison morte à Winnipeg avec son père qui travaille dans l'organisation, je pense pas qu'il y ait eu de maraudage, ils ont pas pris le risque comme ça. Sauf que M. Cheveldayoff connaissait très bien la situation de Pierre-Luc avec les Blue Jackets. Alors, on s'échange ces deux joueurs-là, et comme les Blue Jackets, pour eux, c'était vraiment important d'avoir un joueur de centre dans la transaction pour réaliser cette transaction-là, c'est là que Roslevic est arrivé, et d'autant plus que Roslevic est un Américain. Je pense que c'est un gars qui va être en mesure, en tout cas, d'être dans un environnement où il va être apprécié pour un lien avec les partisans. C'est pas Pierre-Luc Dubois, Roslevic, là. Sauf que certains diront que les Jets ont payé. Moi, je pense que les Jets viennent de récupérer un excellent joueur qui, avec Mark Scheifele et Blake Wheeler, va être dans un environnement parfait pour réussir. Les Jets vont prendre soin de lui et Pierre-Luc Dubois va prendre soin des Jets. Dans le cas de Laine, il a besoin de changer d'air. Je suis pas sûr que le mariage Tortorella-Laine va être un mariage heureux, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais avec Torts.
Je comprends, mais quand on connaît un petit peu les personnalités des deux individus, on se dit, aïe, ça va faire du papier sablé un petit peu à Columbus. Mais qu'est-ce que fait le père de Pierre-Luc Dubois avec les Jets?
Pierre-Luc, le père de Pierre-Luc, on le sait, là, lui, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale avec l'organisation des Nordiques, des Blackhawks de Chicago, et il est maintenant entraîneur adjoint avec Pascal Vincent du club école des Jets, okay. Le Moose, okay. Du Manitoba. Et on sait que les Jets opèrent leur club école à Winnipeg même. Alors, tu sais, l'environnement est très proche, là. Puis de toute façon, je pense que, tu sais, Marc Bergevin l'aimait, Pierre-Luc Dubois. Ben, il y a bien des directeurs généraux qui c'est aimaient sûr. Pierre-Luc Dubois. La seule chose que je comprendrai jamais là-dedans, dans cette histoire-là, c'est comment se fait-il que Jarmo Kekäläinen aimait davantage Tortorella que Pierre-Luc Dubois. Ça, je ne comprendrai jamais. Puis peut-être que M. Kekäläinen, à moins que Laine devienne un excellent joueur à long terme pour son équipe, va peut-être regretter cette transaction-là, on verra bien.
Écoute, moi j'ai été juste surpris quand il est revenu dans la Ligue nationale, Tortorella, je pensais que c'était terminé pour lui avec la réputation et tout ça, mais bon, bref. Écoute, parlons un petit peu de dollars, parce que là, oui. Dubois, c'est 5,5 millions.
C'est ça pour 2 ans.
C'est ça. Donc lui, on est certain du côté des Jets qu'on va l'avoir au moins pour la saison prochaine. Dans le cas de Patrick Laine, as-tu l'impression qu'on a consulté son agent pour voir si lui avait un intérêt de rester là? Je sais qu'il est joueur autonome avec restriction à la fin, ouais, de la saison, donc il n'a pas le gros bout du bâton.
Non.
Mais j'ai pas l'impression non plus que tu sais, les Blue Jackets n'ont pas le goût de s'embarquer avec un autre gars qui n'a pas véritablement le goût d'être là.
Non, mais je pense qu'il y a probablement eu une permission. Tu sais, est-ce qu'on a commencé des négociations? Je pense pas. Mm-hmm. Mais il y a peut-être eu une permission. OK, est-ce qu'on peut communiquer avec l'agent pour savoir si on a potentiellement un terreau fertile pour l'entente. Il y a peut-être ça qui est arrivé, parce que quand tu t'échanges des joueurs aussi importants que Pierre-Luc Dubois et Patrick Laine et Rose Lévesque, qui est pas non plus un pied de céleri, là, tu sais, il faut qu'il y ait en tout cas quelques, il faut qu'il y ait des avantages pour les deux bords. De la même façon, Jérémy, je reviens encore à la comparaison parce que je la trouve parfaite. De la même façon que les Golden Knights, avant de faire l'échange Pacioretty avec Marc Bergevin, avant de donner Suzuki et Tatar, surtout Suzuki, ils ont communiqué avec l'agent de Max Pacioretty pour essayer de savoir s'ils avaient un terrain d'entente, s'il y avait une zone où ils pouvaient avoir une entente. Et probablement que ça s'est fait, parce que dans les heures qui ont suivi la transaction, Pacioretty a signé une prolongation de contrat. C'est la façon de faire maintenant, d'autant plus que le plafond salarial de 81,5 millions cette année et l'an prochain attache un peu tout le monde, mais les Blue Jackets et les Jets prennent un pari intéressant, parce que les deux joueurs sont corrects pour encore une autre année, et la Ligue nationale, avec un virus et une pandémie dont on espère s'être débarrassé à un moment donné, là, dans 2 ans, avec des revenus qui auront peut-être augmenté dans la Ligue nationale, parce que l'an prochain, si on est capable d'amener des spectateurs dans les arénas, peut-être qu'au moment où on signera ces joueurs-là, où on les renégociera, il y aura plus de marge de manœuvre. Peut-être.
Martin, écoute, on va faire une petite pause. Au retour de ceci, on va parler du Canadien, mais je veux faire un lien entre la transaction de Pierre-Luc Dubois qui s'en va avec les Jets, et aussi avec le Canadien et ce que eux auraient pu offrir. Et ensuite de ça, ben, on va transitionner vers le match de ce soir.
C'est sûr. Je te suis.
Exactement. Parfait. Alors, on fait une petite pause. Au retour de ceci, on poursuit avec Martin McGuire, en vous rappelant que vous écoutez Les Amateurs de Sport Week-end sur une station Cogeco. De retour avec Martin McGuire, et on va compléter sur la transaction de Pierre-Luc Dubois. On aura aussi l'opinion de Guillaume Latendresse un peu plus tard dans l'émission sur ce sujet. Martin, quand on regarde le fait que c'est Patrick Laine qui s'en va à Columbus, et on regarde ce que le Canadien aurait pu offrir, est-ce, ouais, que tu vois là un match possible? Excuse l'expression, là, mais tu sais, c'est parce que pour faire rentrer Dubois dans la formation du Canadien sous le plafond, il aurait fallu aussi libérer un joueur qui gagne un bon salaire. Et le seul gars que j'aurais vu, c'est Jonathan Drouin, mathématiquement. Et est-ce que ça aurait été suffisant pour convaincre les Blue Jackets de dire, bon, on passe sur Laine, on va y aller plutôt avec Drouin. Drouin étant signé pour plus de temps, donc t'es sûr de l'avoir. Mm-hmm. Mais Patrick Laine... je veux dire, c'est difficile de passer à côté. Là.
Ben, je pense que tu viens de donner l'explication, Jérémy. Honnêtement, là, Patrick Laine, même si c'est pas toujours un gars très agréable à Winnipeg, là, il peut le devenir à Columbus, pas de trouble, ouais. Là, mais c'est quand même un gars de 140 buts. 140 buts marqués en à peu près, même pas 300 matchs, 205, pardon, là, je vous donne ça rapidement, 306 matchs. Mm-hmm. Alors, tu sais, ça, le Canadien n'a pas ça dans c'est sa ça. Palette, dans ce qu'on pouvait offrir. Moi, je pense que le Canadien, la force qu'ils avaient, là, c'est qu'ils pouvaient offrir à Columbus d'excellents prospects, en tête Jesperi Kotkaniemi. Je pense oui. que ça, c'était une, ça aurait été une pièce maîtresse de la transaction. On saura jamais, là.
Mais
si
la Marc
Bergevin l'avait vraiment mis sur la table, là. Puis mais... l'autre affaire que le Canadien aurait pu offrir, c'est d'autres prospects d'origine américaine en plus, qui auraient aidé Columbus à devenir compétitif pour plusieurs années. Moi, je pense que le Canadien, là, quand ils ont travaillé avec les Blue Jackets, c'est un peu comme ça qu'ils ont travaillé.
Mais mathématiquement, il aurait fallu donner quelqu'un qui gagnait un gros salaire. Sinon, ça n'aurait oui. pas,
ça
pas passé sous la masse du Canadien. Bon,
ça, c'est sûr. Mais là, à partir du moment où tu as Laine dans l'échange, qui est la pièce maîtresse là, en retour de Dubois, parce qu'il n'y a pas de choix de première ronde là-dedans. Là.
Exact.
C'est Laine pour Dubois et Roslevic qui devient un cadeau en prime là, dans la transaction. Mm-hmm. Mais le Canadien n'a pas de Laine. Alors, le Canadien était dans la course. Là. On dit que le Canadien et les Ducks étaient tout prêts. Alors, mm-hmm. moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est Laine.
Je serais curieux de savoir qu'est-ce que le Canadien ferait. Mais ça, c'est une autre histoire. Martin, écoute,
il offrait pas Suzuki, en tout cas.
Ben, j'espère que non. On l'aime bien, Suzuki. Je penserais pas. Faut parler du match de ce soir parce qu'il y a tellement d'angles. Puis, écoute, on n'a pas toute l'émission quand même pour en parler. Mm-hmm. Mais, tu sais, je pense qu'on peut pas faire autrement que de parler du coup de Tyler Myers à la fin du dernier match dans une situation de match perdu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un geste dangereux. D'ailleurs, Armia est commotionné, donc mm-hmm. c'est la preuve. Il n'est pas suspendu. Là, ça nous amène au fait que Corey Perry va prendre sa place dans l'alignement. Et on a deux équipes qui vont peut-être vouloir régler des différends ce soir à Vancouver. Comment tu vois tout ça se développer?
Bon, d'abord, il faut expliquer aux gens, avant de parler du coup de Myers de façon proprement dit, puis de la décision de la Ligue, là, je passe rapidement à la technicalité pour ce qui est de l'alignement. Ouais. Si on a réintégré Corey Perry à l'équipe active, c'est oui. donc dire que Paul Byron ne sera pas du rendez-vous, Jérémy. Parce oui. que le Canadien pouvait pas aller sur son équipe de pratique, sur son équipe de réserve, chercher un joueur si ce n'avait été que pour remplacer Armia. À ce moment-là, ils étaient obligé d'insérer Mété, qui était sur la liste des joueurs actifs. Alors, ce qu'on peut donc deviner, là, à la lumière de ce qu'on voit, c'est que Byron ne jouera pas. C'est donc dire que Perry est activé sur la liste des joueurs disponibles probablement à la place de Armia et que Victor Mété prendra l'autre place sur l'alignement qui est absente en raison là, de la blessure probable de Paul Byron. Alors, ce soir, ce sera Perry...
Oui.
Avec 11 attaquants et 7 défenseurs. Parce que tu pouvais pas ne pas utiliser Mété. Tu comprends? Mété est sur la liste des joueurs actifs. Alors, tu peux pas passer par-dessus Mété. C'est une question de règlement.
Ouais. Écoute, je sais pas si ça va être comme ça toute l'année, mais c'est clairement pas, je veux dire, là, t'es obligé de mettre, n'y a-t-il pas moyen dans l'alignement d'avoir au moins 2 réservistes, un défenseur et un attaquant pour te permettre...
Ma salariale, Jérémy, parce que...
Ouais, mais mettons que le gardien se blesse, tu fais quoi, là? Tu mets backup gardien?
Non, t'as Charlie Lindgren qui est sur la liste de pratique. Okay. Sauf que le 81,5 millions de dollars forçait le Canadien d'avoir une liste de 21 au lieu d'avoir une liste de 23. Tu me suis?
Oui.
Alors, avant d'aller sur ton taxi squad, l'équipe de réserve, tu dois l'utiliser, le 21e joueur. Le 21e joueur, c'est Mété.
Alors, ma question maintenant, avons-nous un défenseur capable de jouer en avant?
Écoute, moi, j'ai l'impression que on va essayer de rouler 11 attaquants. Je pense pas qu'on verra Mété à l'avant. Je pense pas que ça va arriver. Dépendamment du pointage, dépendamment de l'allure du match, là. Mais je pense que Claude Julien va travailler avec ses 11 attaquants et que Mété va faire quelques présences à la défense. Est-ce qu'il y en a un qui a vraiment un potentiel d'aller jouer à l'avant parmi les défenseurs? Je le sais pas, honnêtement. Parce que 11 attaquants et 7 défenseurs, là, il y a des formations comme le Lightning qui emploie ça assez souvent. Ça devient vraiment une question de philosophie. Mais je sais que ça, Claude Julien fait ça parce qu'il n'a pas le choix.
Ben, y a
parce
pas
que
le choix.
Parce que lui, là, 11 attaquants, 7 défenseurs, c'est pas quelque chose qu'il a utilisé très souvent.
Bon, as-tu été surpris de voir que la Ligue nationale n'a pas sévi sur Myers?
Très déçu. Très, très déçu, un peu surpris. Parce que, écoute, je me suis réimprégné de la séquence. Puis j'écoutais les explications de la Ligue nationale. Puis honnêtement, Jérémy, là, tu peux plus dire que parce que le gars a été frappé plus au thorax que sur le menton ou la joue ou l'oreille, tu suspends pas. Parce que l'intention de Myers, c'est pas d'aller chercher la rondelle, c'est son coéquipier qui a la rondelle. Il n'y en a plus de rondelle dans le jeu. T'sais, Armia est pas dangereux. Son intention, c'est d'aller faire payer le prix à Armia. Moi, c'est ça qui m'énerve dans cette décision-là. Puis là, la Ligue dévie le débat parce que la Ligue dit il était pas complètement dans son angle mort. Il est même pas là, le débat. Le débat, c'est t'as frappé un gars au haut du corps, il y a eu une conséquence à la tête, puis il n'y avait pas de rondelle, puis en plus, tes arbitres ont mis 5 minutes de pénalité puis une expulsion.
Exact.
Alors, ça devrait être automatique. Il ne devrait même pas y avoir d'interprétation après ça.
Comme j'ai mentionné hier avec Mario Langlois, il n'y a pas un médecin qui vous dira pas que le coup n'a pas besoin d'être directement appliqué à la tête pour qu'une commotion cérébrale survienne. On le sait que c'est l'effet du whiplash exactement qui va amener la commotion cérébrale. Il y a aussi la chute sur la patinoire. Donc moi, cette excuse-là de la Ligue nationale, je l'achète pas. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on continue d'essayer de la vendre au public.
Regarde, le débat, Jérémy.
Ben,
c'est tout simplement ça.
Ben, je comprends, mais le résultat, c'est qu'on veut éviter que des gars soient blessés gravement à la tête, puis là, on a un joueur commotionné. Donc, clairement, on n'a rien réglé dans ce dossier-là. Mais as-tu l'impression que ce soir, ça pourrait déborder dans ce troisième match-là entre ces deux équipes-là?
Encore là, ça va dépendre du pointage, Jérémy. Ça va dépendre du pointage, parce que le geste irréfléchi de Myers est arrivé quand il n'y avait plus de match.
Exact.
Alors, si on se retrouve à nouveau dans une situation où il n'y a plus de match ce soir, c'est sûr que la Ligue, en retirant Myers avec une suspension pour le match de ce soir, c'est sûr qu'il n'arrive rien. Là, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte parce que tu prends pas de décision au niveau disciplinaire. Ce que tu fais, c'est que tu risques de ramener la loi du Far West. Et c'est pas plus intelligent de jeter ses gants puis d'aller essayer de se battre contre Myers, là. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait ça chez le Canadien, là.
Qui peut le faire?
Écoute, il y a une couple de gars là, qui sont équipés, mais sais-tu quoi? Je veux même pas aller là, Jérémy. Je veux même pas aller là parce que imagine qu'un joueur du Canadien décide de faire ça.
Oui.
Puis que là, Myers reçoit un coup de poing sur la tête puis il tombe au sol. Ou que Myers, en se défendant contre le joueur du Canadien, le frappe à la tête puis le gars, écrase à terre. Qu'est-ce qu'on va dire après? Qu'est-ce qu'on va dire?
Ben, si c'est la Ligue nationale qui va avoir à répondre. C'est ça,
ben voilà. Alors, tu sais, il est arrivé quelque chose là récemment chez le Canadien, puis je pense qu'on a de la documentation pour ça là. On se souvient que Paul Byron avait frappé de façon assez vicieuse Uyghur, le défenseur des Panthers de la Floride.
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé après?
Ils se sont battus.
Uyghur est allé voir Byron, puis il a dit, écoute, c'est parce qu'on a un litige à régler, toi puis moi.
Exact.
Alors Byron, mais il recule pas, là. Il jette ses mitaines, puis il s'en va contre Uyghur. Il mange un coup de poing sur le menton, puis résultat, il a pas été le même joueur pendant presque un an.
Un an, oui, t'as raison, t'as absolument de le mentionner. OK, voilà. Martin, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous à 18h ce soir, c'est ça?
Absolument, on est là à 18h pour un avant-match de 60 minutes avec Danny. On va revenir sur la transaction du bois. On a des trucs intéressants aussi à Joël Bouchard, avec Joël Bouchard qui a ouvert le camp d'entraînement du Rocket. On va parler des trucs là, que Joël nous a dit concernant le soutien des joueurs, des gars des ligues mineures, Jérémy, qui ont eu des moments très difficiles pendant la pandémie, économique et psychologique. On va en parler ce soir, entre autres.
Excellent. Merci beaucoup. On vous retrouve à 18h ce soir. Salut, Martin.
Au revoir.
Alors nous, on fait une petite pause. Au retour de ceci, on va parler football avec Martin Lemay et Bruno Eppel. Deux gros matchs de finale de conférence dans la NFL demain. On met la table avec nos deux collègues. Petite pause, on vous revient rapidement.